le retour de l'information avec vous, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Au Cambodge, un mois après des élections législatives controversées, le pouvoir du Premier ministre Hun Sen manifeste des gestes d'apaisement envers l'opposition. Plusieurs activistes ont été libérés ces derniers jours et notamment hier soir, deux reporters de la radio Free Asia. Ils étaient emprisonnés depuis près de 10 mois. Libération sous caution, suivie par Eleonore Sok à Phnom Penh.
Woon Chin et Ying Soo-Tierin ont retrouvé leur famille hier soir à Phnom Penh. Ces deux journalistes avaient été accusés de trahison et de pornographie en novembre dernier, après la fermeture de leur radio et plusieurs autres médias indépendants. La veille, Thep Vanny, une figure mondiale du combat pour le droit des terres, a elle aussi été remise en liberté avec 3 autres activistes. Un an avant la fin de sa peine, elle a bénéficié de 2 grâces royales à la demande du Premier ministre Hun Sen. Et quelques jours plus tôt, l'analyste politique Kim Sok a lui aussi obtenu la clémence des autorités. Ces libérations sont plutôt positives, mais ce n'est pas suffisant. Les Cambodgiens méritent un environnement où ils peuvent s'exprimer librement, s'assembler librement et ne pas craindre que le système judiciaire soit utilisé contre eux. C'est ce qu'a publié sur Twitter la directrice du Centre cambodgien pour les droits humains. Des signes d'apaisement donc après le raz-de-marée électoral. Le parti de Hun Sen a remporté l'ensemble des 125 sièges, faisant du Cambodge un régime au parti unique, alors que Bruxelles et Washington menacent le gouvernement de sanctions internationales. La Cour suprême se prononce ce matin sur la demande de libération du chef de l'opposition Khum Soka, emprisonné depuis près d'un an pour trahison et espionnage, une libération réclamée par la communauté internationale.
Correspondance d'Eleonore Sok à Phnom Penh. Un double coup dur judiciaire pour Donald Trump aux États-Unis. La nuit dernière, le président américain a été mis en cause par son ex-avocat Michael Cohen, qui est visé depuis plusieurs mois par une enquête criminelle. Cohen a déclaré devant le tribunal fédéral de Manhattan que Trump lui avait demandé en 2016, d'acheter le silence de 2 femmes qui avaient affirmé avoir eu des liaisons avec le milliardaire. Et puis à l'issue du premier procès sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle, l'ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, a été reconnu coupable de diverses malversations financières. Israël assouplit les conditions pour obtenir un permis de port d'armes. La mesure, décidée par le ministre de la Sécurité publique, devrait permettre à 1,5 million de citoyens supplémentaires de porter une arme. 145 000 autorisations ont déjà été délivrées, car en Israël, les civils sont considérés comme une force d'appoint pour la police en cas d'attaque palestinienne. Étienne Monin.
Dans un monde idéal, je voudrais que personne n'ait d'armes. J'ai un pistolet, moi aussi, là, sur moi. Je n'ai pas envie de l'avoir, mais c'est nécessaire.
Eviata a 34 ans, il est ingénieur, il vit dans une colonie en Cisjordanie occupée. Il porte son pistolet dans son jean, à côté de ses enfants, en plein centre de Jérusalem. Ça n'est pas contre la criminalité, mais par crainte d'une attaque palestinienne liée au conflit.
En Israël, on a des terroristes qui agissent comme des loups solitaires. Vous ne savez pas d'où ils arrivent, quand ils arrivent, ce qu'ils vont faire. Les policiers ne peuvent pas être partout. Les citoyens peuvent les aider à contrer ces attaques terroristes avec des armes pour stocker l'attaque le plus vite possible.
La mesure du ministre de la Sécurité publique élargit l'accès au port d'armes. Jusqu'alors, il était principalement réservé aux colons et à certaines professions. Les opposants y voient un risque de prolifération et de dérive à l'américaine. Les promoteurs, un renforcement des moyens de protection dans une société où les armes sont déjà omniprésentes.
Le reportage à Jérusalem d'Étienne Monin. Au Maroc, dès le mois prochain, toutes les femmes et les hommes âgés de 19 à 25 ans passeront 1 an sous les drapeaux. Le roi Mohamed VI vient de rétablir le service militaire obligatoire, annonce faite en début de semaine à l'occasion du discours à la Nation. Écoutez ce qu'en dit Omar Brooksy, universitaire et auteur de Mohamed VI derrière les masques.
Certains disent qu'il y a un manque de patriotisme chez les jeunes et c'est une volonté d'intégrer les jeunes dans une logique nationaliste, patriotique, c'est ce qui se dit en général pour défendre ce projet. Ceux qui critiquent estiment que c'est une volonté de résoudre des problèmes actuels, des problèmes modernes, entre guillemets, par des recettes très anciennes. Pour moi, c'est une vieille recette, c'est une décision qui est inappropriée, parce qu'il y a un autre problème dont on parle. Moi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très bien diplômés et bien formés au Maroc et qui décident de travailler à l'étranger, en France, qui ont eu des diplômes d'ingénieurs, etc., qui préfèrent rester au Maroc. Ça aussi, c'est un problème qui est soulevé par le discours royal.
Des propos recueillis par Nadine Epstein. En France, c'est la reprise pour l'exécutif et le gouvernement. Emmanuel Macron démarre la journée avec un conseil de défense, puis ça sera le conseil des ministres qui doit évoquer la reconstruction de Saint-Barthélemy et Saint-Martin un an après le passage de l'ouragan Irma. La Corse, en proie à une nouvelle crise de gestion des déchets. Depuis lundi, des élus locaux bloquent partiellement le site d'enfouissement de Prunelli en Haute-Corse. Ils s'opposent à l'augmentation de la capacité du centre, l'un des deux seuls sites d'enfouissement des déchets de l'île de Beauté. Seuls les camions de l'intercommunalité peuvent passer, un sujet récurrent en Corse, Laura Dulieu.
Il n'y a pas d'incinérateur de déchets sur l'île. La part de tri est aussi insuffisante, seulement 26%. Et il n'y a que deux centres d'enfouissement. Problème, ils sont pratiquement pleins. Pour le site de Prunelli, sa capacité a été augmentée depuis 3 ans. Elle est passée de 43 à 60 000 tonnes par an. Mais les élus locaux s'y opposent. En parallèle, l'autre site d'enfouissement, celui de Vigianello en Corse du Sud, arrive aussi à saturation. Ces deux centres ont tous les deux été bloqués au printemps dernier. D'abord Vigianello, dont la durée d'exploitation avait été rallongée, puis Prunelli, les riverains refusant d'être le seul lieu d'accueil des déchets. Résultat, 11 jours de blocage et 4000 tonnes de poubelles dans les rues. Alors si la Corse croule sous les ordures, c'est dû à la fermeture de deux autres sites, d'abord en 2015 à Talonne, puis en 2017 à Vico. Pour ce dernier, un projet d'extension avait été bloqué par les riverains. Pour sortir de la crise, la collectivité de Corse veut augmenter la part de tri. L'objectif, 60% de déchets triés d'ici 2021. Plusieurs projets sont aussi à l'étude, comme deux centres de tri ou encore un nouveau centre d'enfouissement. Le problème, c'est que ces projets imposent une période de transition de 2 voire 3 ans, une période durant laquelle la capacité d'enfouissement de la Corse sera inférieure aux déchets à traiter. La seule solution provisoire qui semble se dessiner, exporter les déchets en dehors de la Corse.
Explication signée Laura Dulieu. La réunion entre les élus locaux et les représentants de l'État hier n'a pas permis de débloquer la situation. Blocage partiel donc du centre technique d'enfouissement de Prunelli, toujours en cours. La météo de ce mercredi, très estivale partout en France, même si le ciel est couvert près de la Manche et qu'il y aura des orages cet après-midi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures, elles vont ce matin de 19 à 29 degrés du nord au sud. La maximale pour Toulouse cet après-midi avec 33 degrés.